à tous de les deux. Attention pour décompte final. 3, 2, unité, feu.
À la recherche de la Spoutnik Terre, c'est votre capsule scientifico-spatiale propulsée par les ondes de Radio U chaque deuxième mardi du mois à 19h. Ici, pas de mathématiques et d'explications alambiquées. Juste une balade dans l'espace et le temps, à bord d'une capsule aussi charmante que récalcitrante, à la poursuite des sondes spatiales les plus aventureuses du système solaire, et à la découverte de paysages qui sortent de l'ordinaire.
À la suite de l'épisode précédent. Le décodeur n'est pas nécessairement la personne la plus simple à trouver. Disons qu'il apprécie les lieux isolés et particuliers. Heureusement pour nous, un mois a suffi à remettre notre capsule et ses systèmes principaux en état de fonctionnement. Alimentation, propulsion, communication et support de vie. Cette nouvelle clim n'est d'ailleurs pas un luxe d'ailleurs, hein ? D'après la base de données de la capsule, la dernière position connue du décodeur nous ramène quelques carnets de voyage en arrière. Laissez-moi repositionner la capsule et je vous laisse deviner par vous-même au travers du hublot. Ébloui par ces anneaux, pas de doute, nous sommes bien autour de Saturne. Mais cette fois-ci, nous ne sommes pas là pour la belle géante et pour ses anneaux. Non, nous sommes venus pour une de ses lunes. Bienvenue Spoutnikterien, à bord de notre capsule spatiale propulsée par les ondes de la radiophonie avec un grand U. Aujourd'hui, on plonge dans un monde aussi étrange que familier, aussi rassurant qu'effrayant, à l'atmosphère aussi dense que ses mystères, bienvenue sur un monde de géants, bienvenue sur Titan. Si la base de données de la capsule nous donne quelques indications sur la position possible du décodeur, il va nous falloir analyser Titan pour pouvoir la localiser avec précision. Et ça tombe plutôt bien puisque c'est à nouveau en ouvrant le carnet de voyage de Cassini que nous entreprenons ce voyage. Le vaisseau, que nous avons déjà suivi lors de notre premier voyage, a en effet survolé cette lune de Saturne un grand nombre de fois, tirant de ses survols un nombre impressionnant d'informations. Je paramètre notre trajectoire jusqu'à Titan, nous allons nous mettre en orbite autour de celle-ci. Mais en attendant d'y parvenir, épluchons la base de données de Cassini et des vaisseaux qui l'ont précédé pour savoir à qui l'on a affaire. Si Titan peut paraître un peu perdu au milieu de la flopée de satellites saturniens, c'est plutôt tout le contraire, et la Lune est de surcroît plutôt bien nommée. On a longtemps pensé qu'elle était le plus grand satellite de tout le système solaire avant de la rétrograder au second rang. Cette rétrogradation est due à l'une des principales caractéristiques de Titan, son atmosphère. Titan est en effet l'heureuse propriétaire d'une dense atmosphère qui ferait pâlir certaines planètes à part entière. Sa taille pourrait aisément lui permettre de prétendre au titre de planète si elle tournait sur une orbite dégagée autour du Soleil et non autour de Saturne. En effet, avec son diamètre de 5150 km, Titan peut se targuer d'être plus grande que Mercure qui ne fait que 4880 km de diamètre. On doit la découverte de Titan à l'astronome néerlandais Christian Huygens en 1655. Retenez bien son nom, car Christian, ou plutôt Huygens, reviendra plus tard dans l'histoire. Huygens donc découvre Titan en voulant étudier les anneaux de Saturne et lui attribue le nom de Saturne IV, un nom, on peut se le dire, pas très glamour, qui sera plus tard remplacé par Titan par John Herschel, un autre astronome, britannique celui-ci. Peu de découvertes majeures sont alors faites jusqu'à l'époque contemporaine. On pourra tout de même mentionner la mise en évidence de l'atmosphère par George Kuiper dans les années 40. Le problème est que Titan n'est pas simple à observer du fait de sa proximité avec Saturne et surtout avec ses anneaux. Aussi, et comme souvent, c'est avec le développement de l'astronautique que les choses vont peu à peu se débloquer. D'abord avec les sondes Pioneer 10 et 11, pionnières dans la langue de Shakespeare qui, comme leur nom le laisse entendre, sont les premiers objets humains à s'aventurer au-delà de l'orbite de Mars, en passant, entre autres, près de Saturne. Ces sondes offrent les premières photos de Titan en basse résolution, mais accroissent l'intérêt des scientifiques pour la plus grande lune de Saturne. Ce sont les sondes Voyager, et en particulier Voyager 1, qui doit faire suite à Pioneer vis-à-vis de Titan. Titan est en effet un objectif majeur pour Voyager 1 et pour son concepteur, la fameuse NASA. Cette dernière, face aux résultats encourageants des sondes Pioneer, fait face à un choix compliqué à l'approche de Saturne et de sa lune principale. On ouvrira un jour le carnet de voyage des sondes Voyager tant il est intéressant, mais pour embrosser rapidement le tableau, les sondes Voyager sont lancées pour profiter d'un alignement de planètes assez exceptionnel qui permet en théorie d'explorer toutes les planètes externes du système solaire avec uniquement deux sondes. On rappelle qu'à l'époque, Pluton est encore la 9e planète du système solaire, et la NASA doit alors faire un choix. Soit Voyager 1 s'approche au plus près de Titan pour récolter un maximum de données et tenter de percer le secret de son atmosphère, soit elle passe un peu plus loin, mais effectue un survol de Pluton comme prévu initialement. Le choix est cornélien, mais la NASA choisit la première option et approche la sonde de Titan en remettant le survol de Pluton au calendrier grec. Voyager 1 met donc le cap sur la Lune à l'atmosphère mystérieuse avec la ferme intention de voir au travers. Il faut dire qu'il y a un certain enjeu. Titan est le seul satellite du système solaire à posséder une atmosphère conséquente et on ignore toute sa surface à cause de l'opacité de ses nuages. Voyager 1 s'engage sur une trajectoire qui va la faire sortir à tout jamais du plan dans lequel circulent les planètes et carrément plus tard de tout le système solaire. Titan est donc le dernier objet qu'elle observera de près. Le 10 novembre 1980, Saturne est en vue, et le 12 novembre, la sonde frôle Titan à seulement 6490 km, soit plus proche que l'altitude à laquelle circulent les satellites de télécommunication. Les instruments de la sonde sont tous braqués vers la Lune, et l'attention est grande au Jet Propulsion Laboratory qui contrôle la sonde depuis les États-Unis. Le signal a besoin d'une heure et 20 minutes environ pour franchir la distance entre Saturne et la Terre. À la réception du signal, c'est la douche froide. Les instruments de Voyager 1 n'ont pas été en mesure de percer la couche atmosphérique de Titan. Pour l'anecdote, il faudra attendre 35 ans pour obtenir les premières images de Pluton avec le survol de celle qui entre-temps sera devenue une planète naine par New Horizons en 2015. Le chapitre Voyager 1 se termine donc en demi-teinte pour Titan, même si quelques premières conclusions peuvent déjà être tirées. Si l'atmosphère n'a pas pu être percée, le survol a permis d'en dessiner un portrait robot. Titan est donc un monde à l'atmosphère épaisse, où la pression atmosphérique au sol est 50% plus grande que sur Terre. L'atmosphère est par ailleurs essentiellement composée d'azote, comme sur Terre. Avec ces caractéristiques, on serait tenté de se dire que Titan n'est pas si inhospitalière que cela, mais c'était sans compter sur la température qui pointe au maximum à moins 180 degrés Celsius et qui refroidit les espoirs d'une vie de surface telle que nous la connaissons. Toutes ces informations sont intéressantes, mais ne nous apprennent pas grand-chose sur les conditions qui règnent à la surface. Pour en apprendre plus, il faudrait pouvoir aller sur place et surtout y rester, c'est-à-dire se mettre en orbite, et pas uniquement faire un survol comme Voyager 1. Cassini est justement là pour ça. Une de ses principales missions est l'étude de Titan et de son atmosphère. En étant en orbite autour de Saturne, Titan est donc à portée de capteur pendant toute la durée de vie de la sonde. C'est bien, c'est même excellent. Mais ce qui est vraiment génial, c'est que Cassini n'est pas venue toute seule. Vous vous souvenez de Huygens ? Bon, nous sommes en orbite autour de Titan. Tentons d'entrer en contact avec le repère du décodeur.
Ici Capsule 05 à destination du décodeur, me recevez-vous ? Capsule 05 au décodeur, me recevez-vous ? J'enquête sur un signal subspatial diffusant des musiques de Céline Dion pouvant être une menace sérieuse pour la sécurité des vaisseaux qui croisent dans le système. J'aimerais savoir d'où il est émis et je requiers votre assistance.
Pas de réponse. Soit ce garçon est mutique, soit le signal ne parvient pas à traverser la couche nuageuse. L'orange de cette atmosphère est envoûtant. Mais ce qui me plaît le plus, ce sont ces reflets bleus dans la haute atmosphère. C'est comme si on faisait face à une sorte de terre au sol caché qui ne demande qu'à être découvert. Et si on allait y faire un tour ? Nous sommes le 14 janvier 2005, et un vaisseau est sur le point de découvrir un nouveau monde. Mais revenons d'abord quelques jours plus tôt, le 25 décembre. Alors que dans les chaumières on se remet d'un repas probablement bien trop lourd, deux compagnons de longue date sont sur le point d'effectuer une séparation sans retour. L'aventure a commencé 7 ans auparavant, le 15 octobre 1997, quand la sonde Cassini et son compagnon Huygens décollent de Floride à bord d'une fusée Titan 4. Ça ne s'invente pas. Cassini est une sonde américaine et Huygens un module développé par l'Agence spatiale européenne. Huygens est un petit module, censé pénétrer l'atmosphère de Titan. Il ne fait que 350 kg et est fixé à Cassini comme une moule fixée à son rocher. Après 7 ans d'un covoiturage spatial et des millions de kilomètres parcourus, Cassini et Huygens larguent donc les amarres pour écrire une nouvelle histoire. Cassini poursuit son chemin autour de Saturne et Huygens file tout droit vers Titan. Nous revoilà donc en ce 14 janvier 2005. Il est 11h13 au temps universel et Huygens se présente face à l'atmosphère orangée de Titan à la vitesse de 20 000 km par heure. Les choses sérieuses commencent. Le bouclier thermique est mis à rude épreuve, l'atmosphère résiste et freine le vaisseau. À 11h18, seulement 5 minutes plus tard, Huygens n'est plus qu'à 180 km de la surface et sa vitesse s'est réduite à 400 km/h. Un premier parachute s'ouvre et le bouclier thermique de 160 kg devenu inutile est éjecté. Au même moment, les premiers instruments se mettent en marche et débutent la transmission vers Cassini à 60 000 km de là. À 11h34, à 125 km d'altitude, le parachute principal est largué et de plus petits parachutes prennent le relais. À 11h49, dans la pénombre, la sonde tente de déterminer sa position. À 12h57, les derniers instruments sont mis en marche. Au même moment, à Darmstadt en Allemagne, au centre de contrôle de l'Agence spatiale européenne, la tension est palpable. Huygens est en effet la première mission de l'Agence spatiale européenne dans le système solaire externe. À cause du délai de transmission de plus d'une heure entre Titan et la Terre, les opérateurs du centre ne peuvent qu'attendre que la sonde donne de ses nouvelles. L'attente est longue, suffisamment pour que tous, probablement, se rappellent qu'une telle entreprise n'a jamais été tentée auparavant. D'ailleurs, peu de cas sont faits de la survie de l'atterrisseur. Et si ces instruments ont été mis en marche pendant la descente, c'est pour pouvoir obtenir le plus d'informations possible au cas où le premier contact avec Titan serait brutal. La salle est tendue quand à 13h34, dans un silence collégial, signal est reçu que la sonde a touché la surface de Titan à une vitesse de 20 km par heure. Elle est intacte, elle est vivante, la salle de contrôle est en effervescence. Bon, le déroulement des événements est un peu romancé, mais la prouesse, elle, est bien réelle. Titan est le cinquième astre sur lequel se pose un objet humain, après la Lune, Vénus, Mars et l'astéroïde Eros. Huygens est le premier, et encore aujourd'hui d'ailleurs le seul objet humain à s'être posé sur la surface d'un corps du système solaire externe. Aussi, poser un atterrisseur du premier coup sans connaître les conditions exactes de sa descente et de la surface est aussi un bel exploit. Bon, Huygens s'est posé, c'est bien. Mais il est posé sur quoi exactement? Allez, équipez-vous, on va faire un tour dehors. Il est temps de voir ce qu'il y a à la surface de Titan. On va en profiter pour aller jusqu'au repère du décodeur. La capsule a enregistré sa position au cours de notre descente. Ce qui rend Titan si impressionnant, ce n'est pas sa taille ou son atmosphère. Enfin, pas directement. Ce qui la rend si spéciale, c'est ça. C'est son paysage. Regardez bien où vous mettez les pieds en sortant. Huygens a atterri sur une sorte de sol meuble, une sorte de boue sableuse recouverte d'une pellicule solide qui donne à l'ensemble une texture qui pourrait rappeler celle de la crème brûlée. Mais sur Terre, qui dit boue, dit eau. Or, avec ses moins 180 degrés Celsius en plein soleil, vous comprendrez qu'il est difficile d'imaginer que de l'eau liquide puisse exister ici. Et pourtant, en relevant la tête, c'est un paysage aussi familier qu'étrange qui s'offre à nous. On distingue au loin des rivières, des lacs, des nuages, de la pluie et même des mers. Non, vous ne rêvez pas, nous ne sommes pas retournés sur Terre et nous sommes toujours sur Titan, qui possède la surprenante caractéristique d'être le seul monde dans tout le système solaire avec la Terre à accueillir des liquides à sa surface. En revanche, ce ne sont pas des rivières et des lacs d'eau liquide qui nous font face, non. Sur Titan, les rivières, les lacs et les mers sont remplis d'hydrocarbures, de méthane pour être exact. C'est tout un cycle du méthane liquide qui existe sur Titan, avec des pluies, des brumes, des tempêtes qui alimentent des rivières qui creusent leur lit dans de la glace d'eau si dure qu'on en croirait de la roche. C'est cela Titan, un monde familier et différent à la fois, qui possède des saisons et des dunes ressemblant à celles du Sahara, et des volcans qui crachent un mélange d'eau et d'ammoniac liquide, le tout à moins 180 degrés Celsius en orbite autour de Saturne. Dans ces conditions, on pourrait se demander si la vie a pu se développer sur Titan d'une manière ou d'une autre. Certains voient dans Titan un analogue à la Terre primitive. En effet, sur Terre, la vie a largement modifié l'atmosphère de la planète et l'apparition de l'oxygène dans l'atmosphère est due à la photosynthèse des plantes qui consomment le CO2 et rejettent de l'oxygène comme un déchet. Titan a donc quelques ressemblances avec la Terre avant que la vie ne change son apparence. C'est ce qu'on appelle un environnement prébiotique. Un autre espoir pour la vie réside dans la nature de lunes glacées de Titan. À l'image d'Encelade, une autre lune de Saturne qui abrite sous sa couche de glace un océan de liquide, Titan pourrait, à 100 km de profondeur, posséder un océan de liquide également dans lequel une vie n'est pas à exclure. Cependant, si ces hypothèses sont réalistes d'un point de vue scientifique, elles ne disposent pas à l'heure actuelle de preuves concrètes et nécessitent pour être validées ou non de nouvelles observations. Et justement, que peut-on envoyer sur Titan après y avoir atterri ? Quelle est la prochaine étape ? Sur Mars, les astromobiles ou rovers ont été choisis. Ce sont de petits véhicules sur roues qui permettent d'explorer une zone bien définie. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas très rapides et surtout qu'ils seraient bloqués par les rivières et les lacs de Titan. Non, c'est une solution bien plus dans l'air du temps, bien plus à la mode dira-t-on, que la NASA a sélectionnée. Une solution qui met à profit l'atmosphère épaisse de la Lune et également sa faible gravité. Un drone. Oui, la NASA a décidé d'envoyer un drone à la surface de Titan. Son nom ? Dragonfly, ou libellule en français. Ce drone de 450 kg, à l'apparence d'un quadricoptère mais disposant en réalité de 8 hélices, sera alimenté par un RTG, une pile nucléaire, et partira en 2026 pour survoler les lacs de Titan à partir de 2034. De quoi apporter un paquet de réponses et sûrement poser une flopée de nouvelles questions. Et qui sait, peut-être un jour, envoyer un sous-marin dans ces océans peu communs. In the town where I was born, lived a man. Who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. Voilà donc qui nous amène au bout du carnet de voyage de Huygens, avec le triste sentiment que ce n'est pas pour demain que l'on ira prendre un bain de soleil sur une plage de Titan. Mais la seconde plus grande lune du système solaire pourrait dans un futur très lointain devenir un peu plus accueillante. Souvenez-vous, lors de notre dernier voyage, je vous disais que le soleil au crépuscule de sa vie allait devenir énorme et carboniser la Terre. En grossissant, il réchauffera Titan qui, dans 5 à 6 milliards d'années, pourrait accueillir des océans liquides d'un mélange d'eau et d'ammoniac. Un monde assurément pas amical pour la vie, mais qui pourrait dans un futur très lointain fournir un dernier refuge à nos lointains descendants. On y est. Le repère du décodeur. Ouvrons la porte du sas. C'est bon, l'atmosphère est respirable maintenant, on peut retirer nos casques. Alors, tiens, on dirait qu'il n'y a personne. Et pourtant, le lieu ne semble pas abandonné pour autant. Allumons quelques systèmes. Oula, c'est pas normal ça. Il faudrait avoir accès au journal de bord. Ah, mais les fichiers sont cryptés. Avec un peu de chance, il utilise toujours le même... Oh, ça marche. Tiens, il y a une entrée qui date d'hier. L'enregistrement semble corrompu. Ah, ils sont arrivés avant moi. Il a certainement dû fuir. Voyons voir si je peux trouver des coordonnées. Des coordonnées de sa nouvelle planque. Il est dans la ceinture. C'est pas tout proche, hein. C'est même plutôt loin. Il va falloir ruser pour arriver en premier et surtout pour le trouver. Bon, pas une seconde à perdre. On embarque la banque de données et on fonce à la capsule. Je vous dépose en route et on se retrouve le mois prochain, ok? Allez, salut! Pour écouter ou réécouter cet épisode ou les précédents, rendez-vous sur le site de Radio U, radio-u.org, dans la section podcast. Vous trouverez, dans l'onglet réservé à la recherche de la Spoutnitaire, toutes les émissions, avec en bonus quelques précisions.